Le thème de ce soir, manager, manager, faire de l'autorité une bonne nouvelle. C'est pas si simple parce que la question de l'autorité, être en autorité soi-même, comme un certain nombre vous l'êtes, mais aussi répondre à N+1, N+2 de vos actes dans le cadre de l'entreprise ou de votre vie professionnelle. Tous ne sont pas en entreprise, parce que certains peut-être sont dans les hôpitaux ou dans les écoles ou dans des. Voilà, ou dans l'armée, par exemple, où là aussi la question de la hiérarchie est un peu différente, mais elle se pose. C'est un thème qui est donc un thème d'introduction. Pourquoi ce thème-là? Peut-être parce qu'on constate que la question de la gouvernance dans le monde du travail est peut-être plus maintenant, on le souligne, une source de souffrance à travers le burn-out, les harcèlements, des pressions, voire des dépressions, de gens qui voilà, sont en souffrance dans le monde du travail. Et, donc, et peut-être plus votre génération encore, où on sent que l'accueil de l'autorité et vivre l'autorité, c'est quelque chose qui ne vous est pas si simple. Et je vois, moi j'ai 58 ans, donc à peu près grosso modo l'âge de vos parents, et pour nous on ne se posait pas de questions, c'était dit, voilà c'est l'autorité, on y va. J'ai travaillé pendant 3 ans, j'expliquais aux uns aux autres dans un cabinet d'audit qui s'appelait Arthur Andersen à l'époque, et du coup j'ai travaillé, mais du coup ce monde du travail m'intéresse beaucoup, parce que c'est un monde très humain, et par définition, ce qui est humain est complexe. Et donc, du coup, de travailler avec cette patte humaine, c'est quelque chose qui, pour le chrétien en tout cas, qui l'intéresse. Tout ce qui est humain concerne le chrétien, forcément, hein, parce que nous croyons que le Christ qui a pris la condition qui est Dieu qui a pris la condition humaine, fait que ça donne à la condition humaine un intérêt, et tout nous intéresse. Comme disciples de Jésus, où tout nous intéresse forcément. Et cette question du travail, même si c'est pas une question religieuse en tant que telle, mais l'éclairage de l'Évangile, évidemment, va être précieux. Peut-être vous aussi, vous attendez un certain nombre d'éclairages pour mener à bien votre réflexion sur. D'autant plus que je constate que autant les étudiants, la période étudiante, c'est une période d'insouciance où la dimension de vie spirituelle n'est pas tellement présente. Voilà, c'est plutôt les fêtes, etc. Mais autant je sens qu'avec le monde du travail autour de la trentaine, il y a aussi une reprise de contact ou une prise de contact avec l'Église pour avoir un peu des pistes de réflexion pour la vie personnelle et professionnelle. Parce qu'on sent justement, il y a des choses qui nous posent question, voire avec lesquelles on est en désaccord. Des pratiques professionnelles avec lesquelles on est en désaccord. Et donc, ou qui nous posent question, ou nous demandent de faire des choses, on nous demande par exemple de mentir. On sait très bien qu'un produit n'est pas ce qu'il est, mais malheureusement, on nous dit de dire l'inverse. Bon, ben, des choses comme ça pose des vraies questions pour vous. Et du coup, comme lieu de réflexion, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 lieux de réflexion. Il y a la partie syndicale qui est intéressante, mais qui est plutôt la défense des intérêts particuliers d'une profession ou d'une partie de la profession. Mais comme lieu de réflexion générale, ben voilà, il y a dans l'Église, c'est vrai qu'on offre un lieu de réflexion bien au-delà de l'aspect strictement, j'allais dire, religieux, parce que ça va, l'Évangile a cette vocation d'éclairer toute notre réalité humaine. Donc, introduction, donc c'est une question de souffrance liée au travail. C'est intéressant de venir aussi, de travailler un peu sur l'étymologie du mot « autorité ». L'étymologie du mot autorité, ça vient de augere en latin, qui veut dire faire grandir. Et autorité vient du mot auteur, c'est-à-dire devenir l'auteur de sa vie. C'est-à-dire que recevoir une autorité, comme exercer une autorité, me permet de grandir et de faire grandir et de devenir auteur et que d'autres deviennent auteurs. C'est vrai dans le monde professionnel, mais aussi c'est vrai dans le monde familial. Hein, parce que la réalité de l'autorité, on pourrait faire le lien justement avec la manière dont on a vécu l'autorité parentale, hein, et la manière dont on vit l'autorité dans l'entreprise. Hein, je trouve que c'est des choses qui sont pas sans connexion en tout cas. Et les difficultés qu'on a eues à accepter une autorité parentale, ou quand il y a eu une autorité parentale défaillante, comment est-ce que donc un peu laisser livrer à soi-même, ce qui peut parfois arriver. Et donc comment faire pour que ensuite soi-même on puisse exercer une autorité, ça sent qu'on sent qu'en soi il n'y a pas des choses qui sont pas encore construites. Hein, donc, voilà. Donc, c'est la question de. Évidemment, un autre point dans cette introduction, c'est. On parle souvent de cette éternelle crise de l'autorité. C'est vrai qu'on est passé beaucoup du père au père. Ça veut dire quoi? Du père P-E-R-E au père P-A-I-R. C'est-à-dire celui qui, surtout dans votre génération, ce n'est pas parce qu'on a, on a une place que l'on est pertinent. Ce n'est pas parce qu'on a un rôle, ce n'est pas parce que c'est un prêtre qui parle, qui dit la vérité. Donc on sent qu'il y a un challenge, votre génération met un challenge à ceux de notre génération qui sommes en responsabilité, parce qu'ils doivent faire des preuves. Et donc le fait de passer du père au père, un semblable, quelqu'un qui sera au même niveau hiérarchique, et on voit ça très fort dans les réseaux par exemple, eh bien, aura peut-être autant de poids qu'un supérieur hiérarchique. Ce qui fait que ce n'est pas parce qu'on est en hiérarchie qu'on a raison. Donc ce questionnement vous habite, et c'est intéressant, votre mode de fonctionner est beaucoup en réseau, et le fait SPSP n'existe que par un réseau, hein, la communication se fait que par Facebook et par le site aussi, mais dans un réseau, par définition, il n'y a pas de hiérarchie. Dans un réseau, personne, bon, s'il y en a qui gèrent un peu quand ils mettent des trucs, voilà, mais il n'y a pas un qui dit, moi, je sais, vous devez, oui, il y a une autorité qui essaye de gérer pour qu'il n'y ait pas de dérive, d'appel à la haine, etc., etc. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de hiérarchie dans un réseau. Je trouve que c'est intéressant. Vous privilégiez le réseau, mais le problème du réseau, c'est que ça privilégie le même, le semblable, un peu l'identique. Hein, donc c'est plus difficile de s'ouvrir à des personnes qui soient complètement différentes. Donc cette question de la crise de l'autorité avec les dérives possibles où on est passé avec un mode d'autorité qui est assez affectif. Et là, vous m'entendrez plusieurs fois citer ça, je trouve cette surdose d'affectif où c'est le patron copain qui ouvre la porte à la manipulation. J'ai fait deux topos qui sont enregistrés et qui sont en ligne disponibles sur le site de Spi & Spi et de ma communauté. C'est sur les manipulateurs. Et j'ai fait un topo, c'était donc l'année dernière, l'année scolaire derrière, et un topo sur le burn-out. À partir d'un livre du Père Pascalide, qui est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui a travaillé ces questions-là, je trouve qu'il y a un très bon éclairage, et qui, en tout cas, j'ai retravaillé ces ouvrages, et je ne vais plus les redonner à travers ça. Mais on sent que, justement, comme la structure, l'institution elle-même est en difficulté, et ce n'est pas parce qu'on est de tel poste qu'on a raison et qu'on voit des contestations qui n'existaient pas auparavant, on voit peut-être des dérives dans les démarches affectives, une manière beaucoup trop affective, sentimentale, pour avoir un peu l'ascendant et faire que l'autre fasse ce que je veux. Mais qu'est-ce qu'au fond, c'est de la manipulation. Hein, donc, on comprend bien que, voilà, on se tutoie, par exemple, on se fait la bise, on célèbre les anniversaires, etc., etc. Mais derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas, comme en étant hiérarchique, hein, un désir de plaire? Alors là, si vous êtes en hiérarchie, renoncez au désir de plaire. Vouloir plaire, c'est une plaie, de toute façon. Et donc, du coup, le fait de vouloir gagner l'assentiment des autres, etc. Non, c'est pas ça, l'autorité. L'autorité, c'est faire grandir et que les autres deviennent auteurs. Donc, ça veut dire, à un moment donné, qu'il y a des choses qu'on va faire qui ne vont pas plaire. Et qui vont déplaire, ou qu'on nous fait qui nous déplaisent. Et bon voilà, mais si on reconnaît, justement, le côté structurant de l'autorité, c'est que si on reconnaît la compétence et la pertinence de celui qui est en autorité, ce seront des choses qu'on acceptera plus facilement. Si en revanche, on voit que la personne n'est ni compétente ni pertinente, évidemment, on remettra en jeu sa parole. Mais à tel point, on dit une crise de l'autorité, oui, mais dans votre génération, ce que je remarque, c'est que, parce que j'ai beaucoup de contacts donc, à travers Spi & Spi, mais un groupe que j'ai monté il y a maintenant 4-5 ans à Compiègne, mon ministère de prêtre m'appelle beaucoup à des préparations au mariage, je ne fais pratiquement que ça. Donc, c'est vraiment mon cœur de cible, je veux dire, mon ministère m'appelle de prêtre en contact avec votre génération, autour de la trentaine, quoi. Et du coup, je vois que contrairement à ma génération, vous êtes beaucoup plus attentif au style de management et que vous êtes prêt à aller dans un travail qui parfois gagne moins, mais parce que vous savez qu'il y, avait un, il y a un manager qui vous fera grandir. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois, des gens qui sortent des grandes écoles, etc., etc., et qui, déçus de leur management, sont à la recherche de quelqu'un, au contraire, qui les tire vers le haut. Mais ce management à la pression et au stress, on voit bien que ça atteint complètement ses limites. Donc, un autre point de la même introduction, on est toujours dans l'introduction, c'est la particularité de l'autorité dans le monde du travail, parce que c'est une autorité qui se mélange avec l'argent. Donc on ne peut pas ne pas parler, alors ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, peut-être on aura un peu notre vision sur l'argent, parce que c'est une question qui est très importante, mais c'est ça qui vous fait vivre, le travail c'est ça qui vous permet de votre vie au quotidien. Il y a dans toutes vos réalités entrepreneuriales, ou même si vous êtes peut-être moins dans le monde de l'éducation, dans les services publics, mais s'il y a des postes élevés, il y a des dimensions d'argent qui rentrent en ligne de compte de plus en plus. Donc, ce qui fait qu'il y a et pouvoir et argent. Donc, ça fait qu'il y a un mélange des deux qui n'est pas facile, parce qu'on sait qu'il y a des personnes, qu'il y a des familles qui comptent sur ce travail pour vivre. Et donc, se défaire d'une personne quand elle ne fait pas l'affaire, en sachant que peut-être on va la laisser dans une situation difficile avec sa famille, ce n'est pas une question simple. Comme chrétien, comment est-ce qu'on agit? Il m'est arrivé, par exemple, j'étais en responsabilité à plusieurs égards, j'étais supérieur de ma congrégation pendant 6 ans, et puis j'ai été, depuis maintenant 5 ans, je suis responsable à l'abbaye de la partie cuisine. Il y a deux parties très importantes dans l'abbaye, il y a la chapelle et la cuisine. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quelle est la plus importante. Donc, mais toujours est-il que... dans cette partie de cuisine, il y avait un homme que, quand je suis arrivé, on m'a demandé de prendre... il ne faisait pas du tout l'affaire. Voilà, il a fallu s'en séparer. Bon, du coup, comment gérer, en plus, comme prêtre? Oui, donc c'est quand même pas simple, dans une abbaye, etc. Comment gérer un licenciement? Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, c'est tout. Donc... Donc la particularité du travail, c'est qu'il y a ce lien avec l'argent. Donc ça, c'était l'introduction. Première partie, c'est les modes d'exercice du management. Je les rappelle rapidement, mais ça, vous l'avez normalement en tête, ou c'est quelque chose que vous avez peut-être entendu dans vos formations professionnelles ou vos formations de base comme étudiant. On peut reconnaître 4 modes, grosso modo. Un mode qu'on appellera directif, un mode ensuite qu'on appellera explicatif, un mode délégatif et un mode participatif. 4 modes. Rapidement là-dessus, vous aurez, ça ce sera mis aussi sur le site. Le mode directif, il s'intéresse au processus, le processus s'intéresse aux résultats. Du coup, on donne des consignes, suit la progression vers des objectifs précis, définit des règles, des directives régulièrement, informe plus qu'il ne communique et prend les décisions seul. Ça a un côté positif, parce qu'il y a des personnes qui aiment être dirigées comme ça. Là aussi, quel est le style de management qui vous convient? Des gens auxquels on dirait, mais écoutez, on vous laisse choisir, faites comme vous... Ça les angoisse, ça les stresse. Non, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que, par exemple, un truc important, la fiche de poste. La fiche de poste, c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça vous dit qu'est-ce qu'on attend de vous. L'entretien annuel d'évaluation, c'est quelque chose qui s'est mis en place quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, ça n'existait pas. Je ne sais pas de quand ça monte, mais c'est quelque chose de très positif. Parce qu'il y a un lieu et un temps, même si c'est annuel, pour dire les choses. Si ça peut être plus qu'annuel, c'est mieux, mais il y a un lieu et un temps pour ça. Et non pas que ça passe par des crispations. Donc la question, c'est pas qu'il y a un mode qui soit bon ou l'autre qui soit pas bon. Il y a un mode qui me convient, et un mode qui ne me convient pas, c'est tout. Dans ce mode directif, l'excès, c'est un peu la centralisation, et puis le fait de ne pas faire confiance aux collaborateurs. Mode explicatif, deuxième mode, il fait en sorte d'expliquer les décisions dont il garde néanmoins la maîtrise, il fait en sorte de mobiliser ses collaborateurs, d'écouter leurs avis, suggestions, et les encourage à devenir autonomes. Voilà, donc ça, c'est plus pédagogique. Ça dit où on va, mais on dit comment on y va. On explique. Et il y a des collaborateurs à qui C'est vrai que c'est utile pour ceux qui veulent savoir, mais pourquoi on me demande ça? Les tenants et les aboutissants du projet. Hein, et donc, c'est quelque chose aussi qui les rassure, qui les motive, qui leur donne la lumière de la finalité. Parce que gouverner, c'est beaucoup montrer la finalité. Un style, un troisième style, délégatif. Complètement délégatif, donc il définit clairement les missions et les responsabilités, puis il laisse l'autonomie nécessaire aux collaborateurs. Il intervient ensuite uniquement quand cela est nécessaire ou à leur demande. Voilà, on vous dit, voilà, vous avez un objectif, c'est celui-là. Vous en parlez en équipe. Les moyens d'y arriver, ça vous regarde ou ça ne vous regarde pas. Et puis je reviens dans un an, je vais checker avec vous les objectifs, si c'est atteint ou c'est pas atteint. Il y a grosso modo si vous allez avoir une prime ou pas de prime. Voilà, donc voilà, c'est un mode délégatif qui est intéressant. Ça peut être aussi très inefficace parce que des personnes qui n'ont pas plus de consignes que ça, ça peuvent être perdues. Ça encore, ça fonctionne avec certaines personnes, d'autres ça ne fonctionne pas du tout. Hein, c'est utile quand il y a des collaborateurs qui ont de la compétence, qui ont un savoir-faire, hein, qui ont assez d'autonomie, hein, ce mode pédagogique, mais ensuite on laisse une totale liberté. Et le quatrième mode qui est participatif, où là on va de plus en plus dans même la définition des objectifs, on en parle ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est pratiquement horizontal. Je suis votre manager, mais je suis un parmi vous. Et du coup, ensemble, on propose des projets d'équipe, on incite à la remontée d'informations et aux discussions, il va associer les collaborateurs aux décisions, se préoccuper de leur engagement dans les projets. Mais voilà. Du coup, l'excès de ça, c'est d'être trop à l'écoute, à tendance à vouloir éviter le conflit, à devenir paternaliste, à se préoccuper plus de l'ambiance au sein de l'équipe que des résultats à atteindre. Mais c'est utile quand... les collaborateurs sont très compétents, ont une grande conscience et sont adaptables. Voilà, ça c'est. Donc ces quatre modes de fonctionnement, grosso modo, hein, encore une fois, il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Il y en a un qui me convient et un qui ne me convient pas. Sachant que, et ça, ouvrez bien vos écoutilles, c'est que l'autorité vient révéler ce que je suis. Que je sois moi-même en autorité ou que je sois sous l'autorité de quelqu'un, et vous êtes les deux, et on est souvent les deux à la fois, on a à rendre des comptes et on a à donner en même temps des directives, ça manifeste ce que je suis, ça met le projecteur sur soi. Ce qui fait qu'il y a des personnes, c'était le week-end dernier, je donnais des topos aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, par exemple. Et du coup, ils me disaient, aujourd'hui, des jeunes, justement, ils se plaignaient de vous, entre guillemets, alors pas de vous qui êtes là, mais bon, de votre génération. Est-ce que les vieux ne sont pas toujours pleins des jeunes? Certainement, et l'inverse aussi. Mais toujours est-il qu'on veut confier des responsabilités, ils disent non. On veut confier des responsabilités, on n'arrive pas à trouver de personnes qui prennent des responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est sûr que le fait d'être en responsabilité, ça fait qu'il y a un focus qui est mis sur vous. Le projecteur, moi j'étais supérieur de congrégation, forcément, le projecteur est braqué sur vous avec vos qualités et vos défauts. Tout est visible parce que vous êtes au premier rang, hein, surtout comme supérieur de congrégation. Alors vous êtes au-dessus de vous, il y a quand même, vous n'êtes pas au top, mais du coup, il y a par exemple des personnes qui sont dans une timidité, des personnes qui ne... n'ont pas trop confiance en elles-mêmes, etc., la question de la responsabilité, ça va être anxiogène. Et donc, ça va venir toucher en elles, en ces personnes, ces insécurités. Des personnes qui sont... au contraire, des personnes qui sont dans un don, dans une attention, dans une empathie, dans une pédagogie, et qui prennent sur eux les reproches du N+1 et qui disent pas, ben non, c'est mon N-2 qui a complètement foiré le truc, il faut m'en séparer, etc. Bon, des personnes qui eux-mêmes assument la responsabilité avec les difficultés, c'est les personnes vers qui on veut aller aussi. Donc c'est, je trouve ça intéressant, ça dit quelque chose de vous, et en même temps que je vous parle, c'est bien que vous voyez un peu dans votre manière de vivre manager ou manager, ou les deux, comment ça vient toucher en vous quelque chose. Comment ça vient toucher en vous. Il y en a qui sont en grande quête de reconnaissance. On sent ça. Il y a beaucoup, parmi les langages de l'amour, hein, vous connaissez le livre de Gary Chapman, les langages de l'amour, moi qui est plus destiné au couple, etc. Mais c'est-à-dire ça peut s'appliquer aussi au monde de l'entreprise. Les paroles valorisantes. On sent que beaucoup sont en quête de paroles valorisantes, d'être encouragés, etc. Mais on ne peut pas que encourager. Et puis qui encourage ceux qui encouragent. Oui, donc du coup, ceux qui encouragent ont besoin aussi parfois d'une parole. Puis à un moment donné, il faut grandir. On a à faire un boulot, on n'a pas forcément besoin d'avoir un retour positif toutes les 4 matins pour nous dire c'est bien, continue ma fille, t'es dans le bon chemin, etc. Non. À un moment donné, il faut grandir aussi. Et c'est là, outgérer, grandir, faire grandir. Donc je trouve c'est. En quoi ça vient toucher cette responsabilité, parfois nos immaturités. Ça vient les toucher, ça vient nous. Voilà, ça. Bon, je trouve c'est intéressant que vous puissiez réfléchir à ça parce que c'est pas anodin. Ça demande toujours un travail sur soi-même. Que l'on soit en responsabilité ou qu'on doive rendre des comptes, du moment qu'on est dans l'humain, parce que la vie professionnelle, c'est de l'humain, c'est ça qui fait le côté passionnant de la vie professionnelle et que je trouve aussi passionnant et passionnant de votre génération. Moi, si j'aime tellement votre génération, j'ai une grande affection pour votre génération, parce que vous avez une période tellement extraordinaire de basculement, de modification. L'Internet, c'est l'équivalent dans l'histoire de l'humanité, c'est l'imprimerie. La découverte de l'imprimerie et de l'Internet, c'est les deux grandes découvertes quand même de l'humanité qui ont changé la face de la Terre. Donc vous êtes dans une période extraordinaire de ce point de vue-là et plein de challenges, mais très instables, comme toutes les périodes de transition, comme c'était aussi le cas de l'imprimerie, etc., avec la Renaissance. Bon, c'est des périodes de changement de monde, de changement de civilisation. D'où l'importance aussi qu'est la voix de l'Évangile qui résonne dans ce monde-là, parce qu'il y a une bonne nouvelle à apporter. Et je ne suis pas du tout de ceux qui disent « avant c'était mieux ». Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime bien cette citation de Saint-Augustin qui dit justement à ceux, 4e, 5e siècle, Saint-Augustin, on se plaignait, mais avant les jeunes, voilà, ils laissaient la place dans les autobus, etc. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autobus au 4e, 5e siècle, mais toujours est-il que, ils se plaignaient. Et lui a une parole extraordinaire, il dit, soyez saints et les temps seront saints, soyez bons et les temps seront bons. Voilà. Les temps sont ce qu'on en fait. Donc voyez de façon plus générale, dans votre monde professionnel, oui, c'est un monde qui est marqué par le péché, oui, par les défauts, par les miens, par les vôtres, par les défauts de nos hiérarchiques et de nos subordonnés. Oui, forcément. Mais c'est pour nous, chrétiens, on ne voit pas ça dans une désespérance. Au contraire, on voit ça à la lumière de l'Évangile et du salut et de l'espérance que le Christ est venu nous apporter. Et ça, ça change tout. Oui, ça change vraiment tout. C'est une autre manière de voir. On n'est pas dans un. C'est pas simplement optimisme ou le monde des bisounours. Non, non. On voit qu'il y a le péché, on voit qu'il en profite. Il y en a qui mettent la tête sous l'eau à d'autres, qui marchent sur d'autres pour arriver plus haut, etc. Rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours existé. Mais on voit aussi que c'est un monde qui vraiment. Où la lumière de l'Évangile peut faire. Peut donner beaucoup de. Comme vraiment vous avez, avec l'Évangile, un plus. Un savoir-faire qui, dans l'exercice de votre travail et de votre responsabilité. Donc là, c'était les modes d'exercer le management. Autre chapitre, le principe de subsidiarité. Alors peut-être certains connaissent le principe de subsidiarité, je le rappelle brièvement, parce que ça a à voir avec la manière d'exercer l'autorité. Le principe de subsidiarité fait partie des 4 ou 5 principes fondateurs de la pensée sociale de l'Église. C'est-à-dire que quand vous voulez appliquer l'Évangile au monde, en dehors, je vais dire, des sacristies, c'est-à-dire au monde économique, à la famille, à l'environnement, au monde du travail, à l'argent, à la paix, etc., au dialogue social, c'est ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. Et parmi ces 4-5 principes, un des principes, c'est la subsidiarité. C'est quoi la subsidiarité? C'est que l'autorité d'au-dessus ne fait quelque chose que si l'autorité d'en bas ne peut pas le faire. Ou, l'inverse, l'autorité d'au-dessus transmet à l'autorité d'en bas tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle sait faire. C'est-à-dire, le principe de subsidiarité, c'est que je vous donne un exemple, parce que je sens qu'il y en a qui. C'est peut-être ce que j'ai dit, n'était pas clair, c'est possible. Bon, prenons la messe. Certains sont habitués de la messe. Imaginons qu'il y a un prêtre, un diacre, un servant d'autel. Le prêtre préside, mais il y a des choses que fait le diacre, comme lire l'évangile, aller dans la paix du Christ, etc. Bon, il dit un certain nombre de choses. Ce que fait le diacre, c'est pas au prêtre de le faire. Et il y a des choses que le servant d'autel fait et que le diacre ne fait pas. C'est-à-dire que à chaque niveau de responsabilité doit être complètement assumé. Mais je trouve que ce point de vue-là, c'est pas l'autorité centrale de centraliser tout. Ça permet d'une certaine manière de faire que chaque niveau accomplisse pleinement sa mission. Le principe de subsidiarité est un principe de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas à Bruxelles de prendre les décisions pour tous les États. Ce n'est pas à Bruxelles, de même, ce n'est pas à l'État de prendre les décisions pour les régions. Ce n'est pas aux régions de prendre les décisions pour les municipalités. Vous avez comme ça des corps intermédiaires, et du coup, à chacun corps intermédiaire correspond une responsabilité, et le principe de subsidiarité fait que chaque corps intermédiaire accomplit jusqu'au bout sa tâche. Et si la municipalité, s'il y a un très grand incendie, ce n'est pas une petite municipalité de 3000 habitants qui va le résoudre. Forcément, il va faire appel aux forces, ce soit la communauté de communes, aux pompiers s'étaient mis en commun, voire à l'État si c'est quelque chose d'extrêmement grave, du coup le préfet intervient. Voilà. Quand il ne peut plus, quand ça le dépasse en termes de compétences ou de savoir-faire, la municipalité fait appel au degré de dessus. Mais ce n'est pas le degré de dessus de systématiquement faire et de bloquer parce que ça décourage. Parce que si c'est le degré dessus, si c'est les préfets qui gèrent toutes les municipalités, il n'y aura plus jamais de maire, parce que ça n'intéressera plus. Donc le principe de subsidiarité, c'est que chaque étage accomplit sa mission. S'il est dépassé, il fait appel. Et s'il peut transmettre à un étage inférieur des choses qu'il fait, et que l'étage inférieur est en capacité d'accomplir, il le fait aussi. Vous voyez, donc, ce n'est pas pareil que la délégation. Alors, je trouve que le principe de subsidiarité, c'est pas pareil que la délégation. La délégation, c'est « je ne peux pas le faire, tu le fais ». Le principe de subsidiarité, c'est l'inverse. Tout ce que tu peux le faire, tu le fais. Et ce que tu ne peux pas le faire, c'est moi qui le fais. Vous voyez la différence? La délégation, je n'ai pas le temps de le faire, c'est toi qui le fais. La subsidiarité, tout ce que tu peux faire, tu le fais. Et si tu ne peux pas le faire, tu me le passes. Vous voyez, c'est, je rappelle la subsidiarité ascendante, ou la subsidiarité descendante aussi, ce que voilà, je transmets à d'autres qui sont en compétence. Voilà. Mais ce n'est pas juste l'autre est là pour boucher un trou parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ça le principe. Ça part, je trouve que c'est très respectueux des personnes et singulièrement des personnes les plus pauvres. Le principe de subsidiarité, c'est chacun va jusqu'au bout de sa compétence. Chacun accomplit. Je vous donne un exemple en communauté. On avait qui était mon maître des novices, un saint homme de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur, mais qui était mort assez âgé, etc., et qui nous aidait à la vaisselle en communauté. Et du coup, certains frères plus zélés qu'éclairés, il en existe, disaient, non, père, écoutez, allez vous reposer après le repas et nous aider à nettoyer, à sécher les assiettes, on fait la vaisselle, et ils pouvaient au moins sécher les assiettes. Mais vous voyez, la subsidiarité, ce n'est pas de lui enlever le torchon, allez vous reposer, non. La subsidiarité, c'est, vous pouvez, ça va, vous êtes en forme, c'est bon pour essuyer les assiettes. Quand vous ne pourrez plus tenir les assiettes parce que vos mains, avec l'arthrite, seront déformées, etc., ben on verra, qu'est-ce que vous pouvez faire encore. Mais vous voyez, c'est un manque de subsidiarité que de dire, mais non, laissez père, allez vous reposer, c'est moi qui vais essuyer les assiettes. On sait, oui, c'est sûr, tu as 30 ans, c'est bien que tu sais bien essuyer les assiettes, bon, c'est bon. Mais on entend peut-être quelque chose d'autre de toi. Du coup, mais si tu ne respectes pas ce que le père âgé peut faire, qui fait qu'il ne se sente pas un poids pour la communauté, et c'est pareil pour vos grands-parents, etc., bon, et c'est pas. Qu'est-ce que l'autre petitement peut faire. Ensuite, bon, porter la pile d'assiettes, là, il ne pourra pas faire. Ben voilà, il passera un frère plus jeune. Ben, ouais, c'est ça la subsidiarité. Mais je trouve que ça respecte la personne, les personnes plus fragiles qui peuvent peut-être pas beaucoup donner, et on est dans des sociétés très complexes aussi, très organisées quand même, voilà, où quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas de formation, quand on n'a pas, c'est galère quand même de s'y retrouver, parce que c'est maintenant tout est par internet, quand on est une personne âgée, qu'on n'a pas, qu'on n'est pas digital native, etc. Bon, comment faire? Ben, justement, c'est tout ce que l'autre peut faire, de le laisser faire, même si ça peut être plus vite fait par quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi j'aime bien cette phrase qui est extraordinaire de Chiara Lubich. Chiara Lubich, c'est une fondatrice d'un mouvement dans l'église qui s'appelle les Focolari, qui est un mouvement italien. Elle disait « Mieux vaut faire imparfaitement à deux que parfaitement seul. Mieux vaut faire imparfaitement à deux que parfaitement seul. » C'est-à-dire, peut-être, et c'est tout le rôle de la pédagogie, peut-être certains d'entre vous sont parents ou le deviendront, si c'est leur vocation, forcément, faire la cuisine avec les enfants, c'est la galère. Forcément. Mais si seul, tu vas y arriver beaucoup plus facilement, c'est évident. Mais si tu n'arrives faire pas, si tu ne laisses pas l'enfant aider, et puis on sait bien, dans la cuisine, il y a tout un aspect affectif, de confiance, de tendresse, de voilà, on goûte dans les plats, etc. Bon, moi, je me rappelle petit, avec ma grand-mère, on faisait la cuisine ensemble, mais tout ça, c'est des souvenirs incroyables. Mais parce qu'elle me laissait faire. Hein, et voilà, mais du coup, je pense que. Et c'est toute la place aussi des personnes qui. C'est ça, tout le monde n'est pas universitaire dans un pays. Il n'a pas vocation à l'être. Tout le monde n'est pas bac plus 5, grandes écoles, etc. Il faut être médecin et compagnie, il faut aussi arrêter. Il y a des personnes qui. Justement, est-ce que je suis prêt, par exemple, je vous voyais là aujourd'hui, à donner plus de place à des personnes handicapées à l'intérieur du monde du travail? Est-ce que c'est quelque chose qui habite aussi il y a des personnes handicapées qui sont tout à fait formées, simplement, il y a peut-être des hospitalisations, il y a peut-être des traitements qui vont être absents, il y a peut-être. Voilà, c'est. Mais aussi, il y a des aides, etc. Mais il y en a clairement, ils préfèrent payer la. Parce que s'il n'y a pas le quota de personnes handicapées, à partir d'un certain nombre de salariés, tu payes une amende. Ils préfèrent payer l'amende plutôt que d'avoir des personnes handicapées. Vous voyez, donc, la question de la subsidiarité, c'est de dire de faire que chacun puisse donner tout ce qu'il peut, là où il ne peut plus, il passe au-dessus. Mais au moins, du coup, ça passe par une logique de don. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant, c'est une manière de voir. S'instaure la confiance, c'est un mode vraiment très important de gouvernance, la subsidiarité. Hein, et non pas que ce soit tout au niveau en haut, les décisions sont prises, et puis voilà, et on ne consulte rien de ce qui peut, en termes d'étapes intermédiaires pour la réalisation de cette décision, par exemple. Donc du coup, c'est le respect du travail de chacun, en particulier du plus faible, une solidarité entre les niveaux de décision. Et ça, c'est parfois ça manque. La solidarité entre les niveaux de décision. Ça c'est important de dire que dans une entreprise est-ce que celui qui est en responsabilité assumera aussi les imperfections et les loupés de ceux qui sont en dessous ou au contraire rejettera la faute. On voit beaucoup de gens comme ça qui manipulent et qui divisent, mais non c'est un tel c'est... Alors, parfois il y a des gens qui sont pas en place mais c'est pas toujours le cas, mais parfois aussi, il y a des loupés. Est-ce que je laisse la place dans l'entreprise à l'imperfection? Est-ce que je laisse la place dans l'entreprise est-ce que je laisse la place à l'erreur? Parce que qui dit nature humaine dit forcément une place à l'erreur. C'est évident. Et puis, même ceux qui sont au-dessus, qui veulent se montrer impeccables, forcément, ils commettent des erreurs. Simplement, ils se portent plus, et puis tu peux rien dire, ils sont au-dessus. Mais si, moi je trouve, vous voyez, alors je ne sais pas comment vous vivez ça, j'aimerais avoir votre tour après, mais si un hiérarchique vient et dit, mais non, là, je me suis trompé, je me suis planté dans telle décision, etc. Moi, je trouve qu'il gagne en autorité, personnellement. Je trouve qu'il ne perd pas d'autorité, il gagne en autorité. Et le fait de gagner en autorité, ça fait que, je trouve, il est capable aussi de se remettre en question. Il est capable de se remettre en cause. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est assez beau, en tout cas, dans notre. C'est quand c'est possible. Mais parfois, il y a des lieux où ce n'est pas possible. Autre point, un autre chapitre, donc après le principe de subsidiarité, mais qui est vraiment important, comme mode de fonctionner général du management. Ça doit être marqué, je ne sais pas si dans vos entreprises, il y a des chartes, etc. Demandez à ce que soit marqué la subsidiarité, qui n'est pas quelque chose de religieux. C'est vrai que l'Église, ça fait partie des principes sociaux, mais encore une fois, c'est dans la Constitution européenne, donc ce n'est pas quelque chose de religieux. Mais la subsidiarité, elle est très importante. Hein, et il faut qu'elle soit expliquée. Autre point, comment détecter et contrecarrer des abus d'autorité dans le travail ? Il y a des manques parfois, on va parler de la partie plus négative de l'exercice de l'autorité, des manques de clarté, par exemple, dans les définitions de poste, dans l'organigramme, l'absence de limites. Quand vous voyez que quelqu'un rentre dans un mode de culpabilisation systématique, qui dit culpabilisation dit manipulation. Et donc là, il faut allumer les warnings. Vous n'avez pas à vous laisser manipuler. Je pense que accepter aussi comme manager et comme manager à dire non à un certain nombre de pratiques. Hein, de manque de distance, qui pour moi, qui n'est pas bon, hein, une manque de distance entre manager et manager, une trop grande proximité qui se veut affectif. Avec trop affectif, j'en ai parlé, pour gagner l'amitié, pour faire comme si on était copains. Non, on n'est pas copains. Hein? Jouer avec les affects, mélanger les genres, hein, voilà. Donc, avoir des abus de pouvoir, diviser pour régner, tout ça, c'est des manières de détecter les mauvaises pratiques du management. Hein? Et quand vous voyez quelqu'un arriver dans une entreprise où ça se passait bien et que progressivement vous sentez qu'il y a des divisions qui s'instaurent, posez-vous la question si cette personne-là n'est pas en train justement dans une manipulation et dans une attitude un peu perverse, de vouloir opposer les uns contre les autres pour pouvoir, lui, monter au-dessus. Donc ça c'est quelque chose. Maintenant, comment contrecarrer ? Vous contrecarrez ça en étant des bons professionnels. Moi, je vous encourage à être les meilleurs dans votre profession. Si votre profession... c'est assistante sociale, soyez quelqu'un de compétent dans votre profession. Si votre profession, c'est de boulanger, faites du bon pain. Si votre profession, c'est être commercial, vendez bien, etc. Donc, soyez des bons... Quand on est un bon professionnel, on vous écoute. Un mauvais professionnel, on ne l'écoutera pas. Et ça, je crois que de ce côté-là, c'est quelque chose qu'il faut que vous soyez bien, bien en capacité. Soyez vraiment bons dans votre métier. Parce que celui qui est bon, il peut parler. Encore une fois, un collaborateur qui est dans une entreprise est bon, on va pas s'en séparer. Et s'il nous fait une réflexion, eh bien, on lui dira, ah tiens, oui, bon, du coup, on percutera. Parce que quelqu'un qui marche bien dans une entreprise, sauf là, être un peu des entreprises qui font que je marche sur la tête, mais on s'en sépare pas, on veut le faire grandir, etc. Et voilà, et moi, je vois un peu ceux qui travaillent dans... les laïcs qui sont salariés de la communauté, voilà, il y a des gens qui sont très tout à fait compétents, et ben, du coup, on a de cesse de les garder, et puis du coup de les augmenter, et puis de les former, Mais être un bon professionnel, donc, et aussi d'écouter. Hein, une manière de démasquer les dysfonctionnements dans la manière d'exercer l'autorité en entreprise, c'est d'objectiver vos remarques, c'est-à-dire de soyez factuel. Soyez pas simplement dans le ressenti. Si vous sentez il s'est passé telle chose, etc. Évitez la communication écrite, un conseil, parce que comme les mails, ça circule. Et donc, ça peut aussi bien se retourner contre vous. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, soyez droit dans vos bottes et écoutez, ce mode, moi, je ne tiens. Il y a un monsieur que j'accompagne spirituellement, mais qui a une cinquantaine d'années, etc., qui était dans le commercial, et commerce international. Et il a affaire avec un douanier qui lui propose une manifestation. Et il en disant, moi j'ai pas froid aux yeux, etc. Voilà. Bon. Et lui dit, moi si j'ai froid aux yeux. Il dit non, et le fait de dire non à cette manière-là fait que ça a entraîné pour l'entreprise des difficultés pour l'exportation des produits. Mais il expliquait ensuite pourquoi il y a eu à sa hiérarchie, pourquoi il y a eu ces difficultés. Et de fait, ça lui a valu plutôt un bon point qu'un mauvais point. Parce que si on commence à rentrer dans la corruption, c'est sans fin. Parce qu'il faut renvoyer toujours les censeurs. Quand j'ai vécu 10 ans en Argentine, j'ai fondé la communauté là-bas en Argentine, et j'ai vécu 10 ans là-bas, où il y a beaucoup de corruption, comme vous le savez. Comme beaucoup en Amérique latine, mais ce n'est pas que l'Amérique latine. Bon, en fait, il y a peu de pays où il n'y a pas trop de corruption généralisée, endémique. C'était le patron de Total. Le patron de Total, donc vous imaginez en Argentine, le patron de Total avec le gaz, etc. Je ne sais pas si vous savez, il y a des champs, surtout de gaz et pétrolifères, mais plus de gaz énorme, des gisements énormes. Donc Total en Argentine, c'est un des interlocuteurs du président de la République, ça c'est très clairement. Ça fonctionnait au pot de vin. Les contrats étaient renouvelés, mais il fallait graisser la patte de qui allait bien. Il a dit non. Il a dit voilà, maintenant, je suis patron de Total, je dis non à cette pratique. C'était jouer gros, parce que il pouvait très bien se faire virer, que ce soit BP ou Exxon qui reprennent le marché, etc. Mais le fait d'avoir dit non à des pratiques qui sont pour le moins douteuses, ou des pratiques, ça je ne le ferai pas, eh bien, ça fait qu'il a été, après la mort de Marjorie, si vous avez suivi un peu le PDG est mort dans un accident d'avion, etc. Après la mort de Marjorie, il a été dans le triumvirat qui a dirigé Total pendant quelques années. Parce qu'on disait, voilà, un homme qui ne cède pas à la corruption. Donc, vous avez, je trouve que ça demande d'être droit dans ses bosses, etc., mais le fait d'être droit, alors c'est pas toujours récompensé, mais si on vous le reproche, dites attention, peut-être un aurait cédé, mais vous ne savez jamais si, à un moment donné, il aurait cédé au détriment de l'entreprise. Donc, faire comprendre aussi à vos responsables que vous, il y a des prêts pour mentir sur un produit, c'est non. Alors, essayez d'avoir des CV disponibles pour éventuellement envoyer, parce que voilà, ça peut peut-être servir, il faut toujours avoir un plan B quand on est comme ça et qu'on dit non, voilà. Mais mentir, c'est non. Parce que mentir, c'est quoi? On dit un produit, on dit ce qu'il est, il ne l'est pas. C'est-à-dire quoi? En SAV, ensuite, tout va revenir. Ah ben oui, j'aurais fait mes objectifs, et le directeur commercial aussi, oui, mais si c'est lui... Oui. C'est le manque de solidarité entre les différents services de l'entreprise. Oui, ensuite, ce sera le service après-vente qui reprendra tout, et la fille qui est au téléphone qui se fera hurler dessus, voilà. C'est quoi? C'est comme ça qu'on veut manager. Vous voyez, des entreprises comme ça, il y a des entreprises qui sont mortifères de ce point de vue-là, qui sont toxiques dans leur fonctionnement, ou des services qui sont toxiques, c'est pas forcément des entreprises, vous êtes dans le service public peut-être, etc., bon, fonctionnaire, des services qui sont toxiques. Posez-vous la question, est-ce que je dois rester dans un service toxique? Et c'est là, par rapport à vos valeurs et à vos manières d'agir, dites-vous très bien. Mais attention, vous pouvez vous le permettre si vous êtes un bon professionnel. Si vous dites, vous connaissez la chose, hein, c'était le cas des exemples que j'ai cités. Hein. Donc, ayez une progressivité dans la confiance, etc., une bonne confiance en soi. C'est vrai qu'une bonne confiance en soi, ça aide. Faites bien la différence entre confiance en soi et orgueil, c'est pas pareil. La confiance en soi, et ça s'acquiert progressivement, et je sais ce dont je suis capable, je connais mes limites aussi. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Dire des choses, ne pas se laisser humilier, il y a des choses, vous n'avez pas à vous laisser engueuler, traiter comme du poisson pourri, insulter, tout ça, ça existe dans le monde professionnel. Bon, ça fait partie. Il y a des choses qu'on n'a pas à accepter. Et il faut tenir tête. Parce que la personne humaine a une dignité, elle n'a pas à se laisser hurler dessus et insulter. Et surtout, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de répondants. Voilà, c'est sûr que la mère célibataire qui a ses deux enfants et qui est caissière, voilà, elle n'a pas peut-être 40 possibilités pour vivre. Hurler dessus, c'est super le courage. Donc du coup, ça c'est un peu contrecarré les choses. Là. Autre chapitre, le management, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, En quoi l'évangile... Alors, j'ai marqué, l'évangile des juniors. Non, l'évangile, c'est vous, vous êtes les juniors, plus, voilà, je ne sais pas quand vous êtes, mais bon. Vous, l'évangile du manager, on va dire. Être un bon professionnel, on l'a vu, avoir un regard de foi sur son manager, c'est intéressant, ça, c'est Saint Paul qui dit, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que, quelque part, même si on peut changer de travail, etc., mais le regard que je pose sur la personne dont je dépends, que ce ne soit pas simplement un regard psychologique. Comme croyant, on a un regard de foi. En quoi cette personne-là me permet de grandir aussi, malgré ses imperfections, hein, et en quoi les difficultés de mon rapport à l'autorité me font grandir, sont source de conversion, d'abord pour moi, hein, comment unir empathie et distance, comment rentrer dans une certaine pardon, comment comprendre qu'il y a des choses que l'autre fait mais qui ne sont pas adressées. Je vais vous donner un exemple dans un milieu complètement différent. J'étais en Amérique latine, aumônier de prison. Et je me rappelle très bien que les premières années, j'allais la boule au ventre. Et j'étais jeune prêtre, j'allais la boule au ventre à l'aumônerie de prison, etc. Entre autres parce qu'il y a des prisonniers très violents, en parole, qui éructaient complètement du plus loin, qui me voyaient, m'insultaient, etc., etc. Et du coup, et même me culpabiliser. Bon, voilà, tout, le pauvre s'est souvent appuyé là où ça fait mal. Et donc, c'était jusqu'au jour où j'ai compris, et là, c'était un grand déclic dans ma vie, en fait, ce qu'il dit, c'est pas pour moi. Même si ça m'est adressé, cette violence-là qui m'est dite, elle n'est pas pour moi. C'est la violence des jours sans pain, c'est des jours sans amour, la violence de familles complètement explosées, de gens qui venaient tous des favelas, des bidonvilles, etc. Bon, de violences qu'ils avaient vues, etc. Donc, c'est important quand vous êtes en face d'une personne violente, ou désagréable, agressive, etc., de se dire, cette agressivité, elle n'est pas pour moi. Et en même temps, il faut mettre un terme à cette agressivité. On ne peut pas être dans le management agressif tout le temps. Il peut y avoir des coups de gueule qui sont donnés, ok, mais un management par le stress et la pression ne peut pas durer, et contre-productif, et d'une manière ou d'une autre, se retourne contre eux, et le manager et le bien commun de l'entreprise. Donc ça, c'est important de... Et j'aime bien cette parole de l'Évangile, hein, être rusé comme des serpents et simple comme des colombes. Hein, c'est l'Évangile, vraiment, de voir que le fait d'être managé, c'est quelque chose qui nous emmène dans une école de sainteté, aussi nous convertit. Hein. Fuyez la critique, parce que ça aussi c'est facile, mais c'est pas digne, c'est pas digne de vous. Fuyez la critique. Le fait, on sait très bien autour de la machine à café, etc., on vient, on va poser, voilà, on parle d'un tel, d'une telle, ah oui, à notre chef, etc., ben, c'est infernal, et on se conforte dans le fait qu'elle est infernale, et que bon, voilà, non. Ça, c'est zéro pointé, je veux dire, c'est nul. Donc, mais c'est archi courant. Il faut dire que ça soulage, je veux bien le croire, mais c'est pas forcément quelque chose qui est constructif. Fuir la critique, vous voyez ? C'est parce qu'il y a quelqu'un, vaut mieux aller voir votre supérieur, votre chef, et dire, voilà, je n'arrive pas à comprendre votre attitude à tel moment, à tel autre, etc. C'est ça aussi le courage. C'est aussi une forme d'amour aussi. Aimer, c'est aussi dire ce qui va pas. Parce que, voilà, c'est... L'évangile des managers. Alors, bon, être un bon professionnel, être une personne la plus unifiée possible. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, ça met le focus sur vous, comme quand vous êtes en responsabilité. Avoir, je trouve, comme si vous êtes croyant, avoir une vraie vie de prière. Et de prier aussi pour ceux qui vous sont confiés. Livrer un combat contre soi-même. Quand vous êtes en responsabilité, il y a des tas de défauts que vous voyez, et du coup, c'est pour ne pas se décourager. Se rappeler qu'on n'est pas Dieu et qu'on a le droit aussi à l'erreur. Hein, se rappeler que l'autorité est un service. Ça, c'est profondément chrétien. L'autorité est un service. Jésus est venu, nous le croyons, nous les chrétiens, comme celui qui nous dit Dieu, et en même temps, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est fait le serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Être en autorité, c'est être serviteur. Et vous vous rappelez le passage de la scène, hein, quand Jésus, donc juste avant la passion, Jésus se fait lave les pieds des... Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien. Il dit pas, je suis votre, il dit pas, je suis votre copain, je suis sympa avec vous, non. Mais je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites de même. C'est-à-dire que pour nous, comme chrétiens, être en autorité, c'est assumer sa responsabilité, mais être au service de, rentrer dans une, au service de la croissance d'autres, hein, faire grandir les autres, hein, c'est ce dont on a parlé. Hein. Donc, voilà, ça, je pense que c'est aussi être dans l'autorité, prendre une part de la croix, ça c'est évident. Il y a une part de souffrance que vous prendrez. Et si vous renoncez à prendre une part de souffrance, vous ne serez pas le manager. Vous pourrez. Il y a une forme de pénibilité que de manager, parce que la nature humaine est compliquée, est complexe. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y a des. Le pire, c'est le manager qui a peur de ses subordonnés. C'est le pire. C'est celui qui a pas zéro confiance en lui. Du coup, il est psychorigide. Il se visse comme ça. Il se bloque sur lui-même et du coup voilà, et ça je pense que c'est quelque chose qui n'aide pas. Donc aimez les personnes dont vous avez la charge si vous êtes. Et pour terminer, je trouve que c'est important de plaidoyer pour la belle ambition. Moi je vous encourage à avoir de l'ambition, parce que c'est vrai dans les mondes, dans le monde catho, je trouve qu'on se fait des nœuds au cerveau et on pense que l'ambition, oui, mais non, c'est pas bien. Je sens qu'il y a un petit peu ça. L'ambition, c'est, voilà, c'est pas. Au contraire, on est appelé à l'humilité, comme la Vierge Marie, etc. Bon, donc elle a dit oui, ou voilà, du coup, est-ce que je veux. Non, elle n'a pas que dit oui, elle a dit oui aussi, mais bon. Mais c'est un autre cas. Elle est hors management, je veux dire. La Vierge Marie est hors management. Donc, du coup, le fait d'avoir de l'ambition. De l'ambition, parce que plus j'ai une responsabilité, plus je peux faire du bien. Plus je peux faire de mal aussi, mais plus je peux faire de bien. Et si vous avez reçu beaucoup, comme c'est le cas que vous qui êtes ici, vous avez reçu beaucoup, vous pouvez faire aussi beaucoup de bien. Et il y a une forme d'égoïsme à ne pas accepter qu'on vous la propose, ou à ne pas désirer un certain nombre de responsabilités dans vos services, dans vos entreprises, là où vous êtes, voilà. C'est la parabole des talents, évidemment, c'est la parabole des talents. Donc, écoutez vos grands désirs. Écoutez, voilà, c'est la magnanimité, avoir une grande âme, une âme magnanime, avoir une âme grande, avoir des grands désirs. Et saint Thomas d'Aquin relie ça avec l'humilité. Être humble, c'est aussi écouter, c'est le désir de vrai, de bien, de beau qui existait en nous, viser l'excellence par amour. Vraiment, il y a tant de bien à faire. Jusqu'au niveau où je peux, hein, la subsidiarité, juste, mais que j'aille vraiment tout au niveau où je peux. Mais il y a tant de bien à faire. Que ce ne soit pas la paresse ou la peur ou l'égoïsme qui me retiennent. Et moi je pense à François Gabart qui a vos âges. François Gabart qui est le vainqueur du Vendée Globe 2013, qui disait. Hein, je ne pensais pas avoir cette énergie en moi, je ne ferais jamais le Vendée Globe si je n'avais pas la foi. La foi en moi m'a permis d'affronter ce. Et le fait de dire le croyant n'est jamais seul, il est capable d'aller au plus grand défi. Et ça, je pense que le fait de savoir qu'on est accompagné, qu'on n'est pas seul dans l'exercice de l'autorité, ça nous engage à prendre des responsabilités. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions sur, c'est forcément limité, mais sur cet aspect-là des choses, que ça puisse soulever en vous des réflexions ou des compléments ou des désaccords, etc. Oui. Oui. Toute autorité vient de Dieu, c'est une citation de saint Paul qui dit ça. Toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que on a, ça veut dire, comment comprendre ça? Par exemple, au début du christianisme, face aux empereurs romains, païens, persécuteurs des chrétiens, saint Paul il dit ça. Il dit toute autorité vient de Dieu. Cette personne-là, elle est à cette place-là, mais quelque part j'ai un regard de foi, je dis pourquoi ce tyran-là, je ne veux pas dire qu'il accomplit l'œuvre de Dieu, mais parce que l'œuvre de Dieu, ça peut être la tyrannie, mais j'ai un regard de foi. Quelque part, il rentre dans le plan du Seigneur et tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même si cette personne-là elle est désagréable, ou voire tyrannique, d'une certaine manière, il y a un bien qui s'accomplit parce que on peut toujours faire le bien, ne prétextons pas les circonstances pour justifier notre médiocrité ou notre peu de zèle ou notre peur. Vous voyez, c'est, toute autorité vient de Dieu, c'est ça. C'est, j'ai un regard de foi sur ceux qui me sont donnés. J'ai un regard de foi sur, même sur mes parents, par exemple. Bon, les parents n'ont pas trop le choix, donc il se trouve que. Mais on a un regard de foi. Mais il y a des parents aussi qui sont toxiques. Il y a des parents qui n'ont pas. Voilà, donc. Mais on n'a qu'une famille. Et le fait d'avoir un regard de foi sur ses parents, bah oui. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui. D'autres questions ? Oui ? Alors, quelqu'un qui a, je répète la question, un jeune qui arrive dans une équipe, mais comme manager, ou, ouais, comme manager, ok, et qui démarre, c'est par exemple, c'est la première fois où il est en responsabilité de personnes peut-être plus âgées que lui, bon, par exemple, bon, et qui a plus de. Je trouve qu'il n'est pas interdit d'être intelligent, et vous l'êtes, c'est que, moi, je serais dans une situation comme ça, je poserais d'abord des questions. C'est pas parce que je suis issu d'une grande école, c'est pas parce que je suis, voilà, etc., que j'étais par ici, là. Je poserais des questions parce que ce management, en tout cas, explicatif. Et vous faire expliquer. Je veux dire, j'ai besoin, je suis en responsabilité, je prendrai les décisions qu'il faut, j'aurai pas peur de prendre des décisions. Je suis à ce poste-là, c'est pour quelque chose. Donc c'est bien aussi, alors il ne faut pas être trop timide, etc., travailler sur sa timidité là-dessus, hein, c'est bien un peu de travailler là-dessus, pour ne pas être, voilà, excusez-moi de vous demander pardon d'être manager, parce qu'il n'y a rien de pire. Celui qui ne fait que demander pardon, parce que c'est extrêmement pénible, mais fout le camp, je veux dire, c'était pas pour sa part, je veux dire, démissionne, c'est tout. Donc du coup, maintenant, voilà, maintenant, on vous avez postulé, etc., bon, du coup, de se dire, ça peut être intéressant de parler avec. Premièrement, question, est-ce que c'est une création de poste ? Oui, non. Si ce n'est pas une création de poste, pourquoi la personne avant, elle est partie ? Ça, c'est à poser comme question dans l'entretien. Dans votre entretien d'embauche, il faut toujours poser la question, mais qu'est-ce qui fait que la personne précédente est partie ? Est-ce que c'est qu'il y a. Est-ce que, combien de temps elle est restée dans son poste ? Pourquoi elle est restée si peu de temps ? Pourquoi il y a un turnover aussi important, etc. Bon, tout ça, c'est des questions qui, dans l'entretien, doivent déjà vous mettre la puce à l'oreille, de voir. Il y a peut-être une structure qui dysfonctionne. Mais vous arrivez là, voilà, vous avez votre bonne volonté, etc., je l'imagine bien. Vous essayez de vous. Un contact personnel avec chacun, c'est pas mal. Avec votre équipe proche, parce que je ne pense pas que vous ayez 500 personnes à diriger tout d'un seul coup, d'un seul. Non. Bon, avec vos 4, 5, 10 personnes que vous avez, d'avoir un entretien personnel. Moi, je commencerai par ça. C'est quoi votre travail ? Je prends des notes, je m'intéresse. Voilà, je m'intéresse aux gens. Et ce n'est pas que du politique, c'est je m'intéresse aux gens parce que ce soit subsidiarité, il faudra bien que je passe par eux pour accomplir ma tâche. Et puis ensuite, demander une fiche de poste claire au niveau de votre N+1. Demande vraiment que ce soit clair, les objectifs soient clairs et soient atteignables. Parce que les objectifs inatteignables, c'est ridicule. Voilà, je pense que c'est deux, trois trucs et de faire le point et de faire le point régulièrement. Alors, c'est vrai que quand on a un accompagnement spirituel, personnel, je trouve ça aide aussi, qu'on revoit sa vie sous le regard du Seigneur et du coup, cette responsabilité-là, d'avoir l'avis d'une tierce personne qui, sous le regard de laquelle on montre, ça aide aussi à peut-être changer les orientations. Et voilà. Mais je pense que ce qui, à mon avis, est le pire, c'est de vouloir plaire et de vouloir, voilà, d'être un peu en situation de. Alors parfois, on est timide, voilà, justement, ça vous fait sortir de vous-même. Ça, bon. Dernière question, parce que. Oui. Quand l'autre ne me correspond pas, il faut se poser les bonnes questions. Si Son management, par exemple, vous êtes prêt à être créatif, à apporter des idées. L'autre, il est hyper directif. Donc, toi, ta fiche de poste, c'est ça. Et puis, tu n'iras pas 2 centimètres plus loin. Voilà. Des gens comme ça. Alors, il y a un N plus 1 a souvent un N plus 2. Et s'il y a beaucoup de gens qui vont voir le N plus 2, premièrement, dans l'entretien individuel, dire qu'on n'est pas content de son management. Et pourquoi ? Ce qu'on apprécie, mais il y a des choses, par exemple, je suis plus créatif et vous, vous êtes hyper directif parce que vous êtes un stressé de la vie, vous voulez avoir tout sous contrôle. Bon, on ne dit pas ça comme ça, parce que bon, mais c'est ça que ça veut dire. Ben, voilà, moi, je n'arrive pas à respirer. Avec vous, je n'arrive plus à respirer. Moi, je suffoque. Tellement vous voulez avoir tout le contrôle parce que vous êtes un angoissé. Parce que c'est les angoissés qui veulent le contrôle. Et donc, voilà, ben, alors vous tournez ça comme vous pouvez, mais y a des gens aussi, il y a des structures qui ne nous conviennent pas. Alors ça, on ne le sait pas forcément quand on rentre dans l'entreprise. Ça, c'est un peu le... Mais, dans l'entretien d'embauche, il y a beaucoup de choses qui se voient, beaucoup plus que... Bon, parce qu'en général, dans l'entretien d'embauche, vous avez été souvent recruté par votre N plus 1. Justement, est-ce qu'on vous a imposé... en dépit du N plus 1, ou est-ce que c'est le N plus 1 qui vous a recruté? Donc, si c'est cette personne-là qui vous a recruté, donc elle a bien trouvé des choses en vous, bon. Donc, soyez très observateur dans ce qui peut pas se passer.